Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et c'est la rentrée. Ali Abibit avec nous. Bonjour Ali.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Thérapeute du couple et de la famille, vous lancez une formation sur la prise en charge des addictions. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Est-ce que finalement, c'est le fait de travailler avec des couples en difficulté qui vous a amené à glisser et à vous intéresser aux addictions?
Alors, pas vraiment. Pas vraiment, parce que même si c'est vrai que j'accompagne beaucoup de couples, j'accompagne aussi beaucoup de gens en individuel. Et c'est une problématique qui revient souvent, que ce soit dans le couple ou en individuel. Mais c'est pas forcément par rapport à l'accompagnement des couples, même si ça revient.
Bon, ça tombe bien, c'est la rentrée, c'est le moment où on est plein d'énergie, qu'on décide de changer des choses dans sa vie. Alors, le mot addiction, c'est un peu le BHV. On retrouve un ensemble de conduites ou de pratiques ou de comportements addictifs très différents. On parle des addictions classiques, un tabac, alcool, drogue, mais aussi au sport, travail, jeux vidéo, écran, téléphone portable, réseaux sociaux. Et on parle même aujourd'hui, par exemple, des addictions au sucre, au bronzage. Est-ce que finalement ça désigne la même chose, ces addictions, ou pas?
Alors, les addictions se divisent en deux. Elles se divisent, comme tu viens de le dire, Philippe, il y a les addictions aux produits. Donc là, c'est du concret, c'est clair, c'est net. Il y a des produits qui agissent sur le cerveau, qui vont justement multiplier la production de dopamine ou d'hormones, justement, du plaisir, qui vont amener des modifications et qui vont rendre addict ou dépendant certaines personnes. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Le même produit peut rendre addict une personne et pas une autre. Et puis, il y a l'autre pan de l'addiction, qui est l'addiction comportementale. C'est celle-ci que moi, je m'intéresse le plus. Et dans l'addiction comportementale, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on fout un peu de tout dedans, ou beaucoup de choses, on va dire.
Surtout qu'on a l'impression que la liste s'allonge et que finalement...
Ça va continuer à s'allonger, je pense.
Hein?
Ça va continuer à s'allonger. Après, au niveau du référencement chez les... Par exemple, dans le DSM, la Bible des psychiatres et pour déterminer...
DSM-5, d'ailleurs, maintenant, cinquième version.
Non, cinquième version. Ouais. Au niveau des addictions comportementales, on a les jeux d'argent. Mais on n'a pas les autres addictions comportementales encore. Mais il est fort probable que dans la prochaine version, ils en ajoutent encore d'autres. Parce qu'on a besoin de voir s'il y a vraiment une modification au niveau cérébral, surtout au niveau de la production de certaines hormones. Mais ça va venir. C'est-à-dire que dans les addictions que vous avez citées, il y en a beaucoup qui sont justement des réelles addictions comportementales pour beaucoup de gens. Alors pas pour tout le monde. C'est là où en fait ça fausse un peu. Alors même pour les produits d'ailleurs, ce que peu de gens savent, c'est que vous prenez une cigarette, quelqu'un qui fume pour la première fois, ça peut ne pas lui faire forcément d'effet, il peut fumer de temps en temps sans forcément être addict. Et vous avez une autre catégorie de personnes qui sont plus vulnérables à l'addiction, qui dès les premières cigarettes vont tomber addict et vont avoir beaucoup de mal à arrêter.
Il y a une définition que j'aime bien de l'addiction. L'addiction, c'est un plaisir qui a mal tourné.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un plaisir qui a mal tourné, c'est une perte de contrôle. C'est ça qu'il faut vraiment retenir dans le terme de l'addiction, c'est qu'il y a réellement une perte de contrôle de la personne. La personne ne contrôle plus. Donc il y a un désir d'arrêter, une incapacité à arrêter. On a envie de consommer et c'est plus fort que nous. On fait tout pour essayer de diminuer, mais c'est très compliqué. Il peut y avoir le syndrome du sevrage, d'où la dépendance pour certains. Donc le fait d'arrêter le produit, et on voit qu'il y a des symptômes qui surgissent et ça devient vraiment compliqué pour la personne de gérer. On peut rajouter, comme il y a plein de critères qui peuvent déterminer et qui peuvent aider à diagnostiquer une addiction. On peut aussi dire que quelqu'un qui met beaucoup de temps à consommer son produit au détriment d'autres choses peut-être plus prioritaires. On peut aussi ajouter ce craving. Vous voyez, ce truc
le craving, c'est quoi?
C'est le fait que ça soit irrépressible, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous, on a vraiment... il faut qu'on le fasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas une question de volonté. Je peux ne pas avoir envie de consommer, mais mon cerveau va me dire, va consommer, il faut que tu consommes, justement parce qu'il y a une intervention qui va se créer au niveau du cerveau. Alors, il y a le système de la récompense, le circuit de la récompense. Tu veux qu'on parle de ça un peu rapidement?
Ouais, parce que ça, c'est important.
Oui, c'est important pour comprendre, ouais, pour mieux comprendre l'addiction. Mais globalement, on a un circuit de la récompense dans le cerveau qui fonctionne pour nous aider à survivre. Donc ce circuit de la récompense, il nous vend l'idée que manger, c'est agréable, par exemple, que dormir, c'est agréable, que se reproduire, c'est agréable, pour qu'on puisse le faire. Parce que si c'était pas agréable, s'il n'y avait pas de plaisir, on aurait du mal à faire toutes ces choses-là. Et donc le fait que ça soit agréable fait qu'on va le faire régulièrement et ça va nous aider à survivre. Là où ça pose problème dans l'addiction, que ça soit donc surtout dans les produits, mais même dans les comportements, c'est qu'il va y avoir donc une surproduction de certaines hormones. Pour que le circuit de la récompense fonctionne, il y a une production de certaines hormones. Par exemple, la dopamine. Vous allez manger, vous allez créer de la dopamine qui va justement interagir avec le circuit de la récompense et vous allez avoir ce sentiment de plaisir. Quand vous allez prendre un verre d'alcool ou une drogue, il y a une surproduction de dopamine. Et donc, le circuit de la récompense va réagir à cette surproduction de dopamine. Vous aurez du plaisir. Mmh. Mais les besoins primaires initiaux vont disparaître ou vont passer en secondaire. Donc, manger, dormir, se reproduire ne sera plus prioritaire. Ce qui sera prioritaire, c'est de consommer sa drogue. Mmh. Parce que la production a été tellement forte que le cerveau va en redemander. Mmh. Et c'est là où on peut perdre le contrôle au bout d'un moment. Il y a aussi dans les critères la tolérance, c'est-à-dire que vous avez le fait de devoir consommer plus pour avoir la même satisfaction précédente.
C'est-à-dire qu'avec le temps, quoi qu'il arrive, les doses vont augmenter.
Alors, ouais. Encore pas pour tout le monde, mais c'est un des critères qui peut surgir chez certaines personnes. Quelqu'un qui a besoin de boire 4 ou 5 verres pour être bien, entre guillemets, au bout d'un moment, ce que ces 4 ou 5 verres produisaient en dopamine ne suffiront plus. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être en boire 8 ou 9 pour produire la même quantité de dopamine que 5 verres produisaient avant. Et c'est là où on a justement des overdoses. C'est qu'on augmente, on augmente, on augmente, et ça sature.
L'OMS rappelle d'ailleurs que l'addiction est une maladie chronique. Donc oui. C'est une... chronique, ça veut dire que ça doit être pris en charge toute la vie. Est-ce que ça veut dire que si c'est une maladie chronique, qu'on n'en guérit pas vraiment ?
Alors, on peut en guérir. On peut en guérir. Vous avez certaines personnes qui arrivent à guérir de certaines addictions et à s'en sortir et à vraiment en changer. Quand on parle de maladie chronique, c'est surtout que même dans les addictions comportementales, dans les addictions aux produits, il y a du comportement quand même derrière. D'où, par exemple, le piège du tabac. Le problème du tabac, c'est que d'un côté, vous avez la nicotine qui est très addictive et c'est un vrai problème à ce niveau-là. Mais vous avez aussi tous les comportements sociaux qui poussent à fumer. Donc quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui travaille dans une boîte où à la pause tout le monde va fumer, c'est compliqué. Vous voyez ? Donc c'est là où ça devient compliqué. Maintenant, même donc au niveau de ce comportement, de ces habitudes qui ont été mises en place, il peut y avoir aussi des vulnérabilités à certaines addictions, ce qui fait que parfois, quand on guérit d'une addiction, on peut aller tendre vers une autre.
Mmh. Et donc finalement, c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous vous êtes arrêté de fumer ou de boire ou de prendre une substance toxique, si vous reprenez, vous replongez en fait.
Alors, ça c'est plus les rechutes. Dans les programmes de on va dire de libération d'une addiction, les rechutes sont attendues. C'est normal qu'il y ait des rechutes. C'est-à-dire que arrêter définitivement un produit toute sa vie, c'est très très rare. C'est rarissime. On a un peu des bizarreries un peu comme ça scientifiques où vous avez des personnes qui ont arrêté de fumer du jour au lendemain et qui n'ont plus fumé toute leur vie.
Donc ça arrive.
Ça peut arriver, mais c'est rarissime. C'est-à-dire que c'est pas la norme. Parce que des fois, quand on entend ça, on se dit bah donc moi aussi je peux.
Parce que souvent les gens qui parlent d'addiction disent plutôt que de s'arrêter progressivement, ils disent je vais tout arrêter du jour au lendemain.
Ce qui est très mauvais. Ce qui est très mauvais, c'est pour ça. Alors ça va dépendre des substances. Si c'est une addiction comportementale, on va aller sur du moyen, du long terme, et on va réduire progressivement le comportement. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Bref, on y reviendra peut-être un peu après. Mais pour certains produits, effectivement, on peut avoir un arrêt brutal, mais généralement, il y a une hospitalisation. Donc il y a tout un accompagnement de professionnels derrière, parce qu'il y aura des syndromes de sevrage sûrement qui vont surgir, et ça va être très très compliqué à gérer. Donc non, ce n'est pas la solution, surtout quand on est seul et quand on s'isole. Mais donc on a quelques bizarreries comme ça de personnes qui ont arrêté une consommation et du jour au lendemain, et ça va très bien pour eux globalement. Et ils ne retombent pas, ils ne rechutent pas, mais c'est rarissime. On a l'autre bizarrerie, c'est le ramadan. C'est aussi une bizarrerie scientifique. Je dis scientifique, donc pour les gens qui ne sont pas forcément religieux ou musulmans, mais pendant le ramadan, il y a beaucoup de personnes qui stoppent leurs addictions. Parfois, alors, certains, c'est que la journée. Et le soir, ils vont consommer moins en termes de temps, mais parfois autant, voire plus en termes de quantité. Mais vous avez des personnes qui, pendant tout le mois, peuvent ne pas consommer le produit qu'ils consommaient tous les jours le reste de l'année. Et après le ramadan, repartir sur une consommation. Et parfois sans syndrome de sevrage. C'est ça qui est bizarre en fait.
Alors le syndrome de sevrage.
Bah ça va être par exemple quelqu'un qui est dépendant, qui va être addict à l'alcool et qui va consommer tous les jours de l'alcool. Le jour où il va arrêter brutalement, par exemple premier jour du Ramadan, il arrête de boire de l'alcool ou n'importe quel jour de l'année s'il décide d'arrêter, bah il va pas se sentir bien. Mmh. Il va transpirer, il va être nerveux, il peut avoir des migraines. Vous voyez, le comportement de ceux, par exemple, qui ne boivent pas de café ou qui n'ont pas leur cigarette les quelques premiers jours du Ramadan, on s'en rend compte, on le voit. C'est très, très compliqué pour eux. Donc, ils peuvent énormément transpirer, ils peuvent perdre le contrôle sur beaucoup de choses, s'agacer sur n'importe quoi. Ça, c'est des réactions, on va dire, soft. Ça peut être plus violent pour certains. Mmh. D'où le besoin d'hospitalisation pour certaines personnes.
C'est la même chose pour une addiction de comportement, par exemple quelqu'un à qui on supprime son téléphone par exemple pour une journée.
Après il faut voir d'où vient la réaction, est-ce qu'elle vient de la frustration, est-ce qu'elle vient du refus de l'autorité de quelqu'un qui intervient et qui vous empêche d'eux, ou est-ce que c'est vraiment le manque? Et parfois c'est parfois le manque, par exemple l'addiction comportementale aux réseaux sociaux, alors pareil, vous voyez, on peut en discuter, dire est-ce que c'est vraiment une addiction ou non. Maintenant si la dernière chose que vous faites dans la journée, c'est d'être devant votre écran, dans le noir, dans votre lit. La première chose que vous faites au réveil, alors que vos yeux ne sont même pas encore ouverts, c'est de regarder ce qui se passe sur Facebook et de scroller. Et que vous faites ça toute la journée, dès qu'il y a un espace, et parfois même quand il n'y a pas d'espace, on peut se poser des questions. Et si on vous enlève ça, comment vous réagissez? Et effectivement, vous avez des personnes qui peuvent ne pas se sentir bien du tout. Mmh. Et avoir besoin de le faire. Sinon,
d'accord, mais est-ce qu'ils auront ce syndrome du sevrage ou ça sera différent?
Non, ça sera différent. Mmh. Ça sera différent, mais ils peuvent avoir des similitudes. Mais ça sera différent de quelqu'un qui consommait du crack ou de l'héroïne ou, voilà.
Alors, on pense au crack, on pense à l'héroïne. On pense pas toujours à la chicha, par exemple.
Oui. Malheureusement.
Oui, alors Maître Serran, si vous nous écoutez, parce qu'on sait que vous avez, vous avez du mal à décrocher de la chicha, mais on peut être addict à la chicha?
Alors, pour moi, oui, mais pas de la même manière que l'addiction au tabac. La chicha, le problème de la chicha, alors, vous savez comment ça fonctionne, le narguilé, vous avez un charbon, vous avez le parfum, etc., qu'ils vont fumer, mais vous avez du charbon, donc en termes de nicotine, c'est moins fort que la cigarette. C'est pour ça que c'est plus sournois. Pourquoi ? Parce que l'addiction va se mettre en place beaucoup plus progressivement, beaucoup plus doucement. Et c'est pour ça que les gens aiment bien la chicha. C'est parce que c'est pas violent. Les gens qui vont fumer une première fois une cigarette, ils peuvent tousser, détester ça les premières fois. Les gens qui fument la chicha pour la première fois, c'est rare qu'il y ait cette réaction-là parce que ce n'est pas violent. Vous voyez, donc ça va progressivement et la nicotine va se mettre en place vraiment tout doucement. Maintenant, c'est beaucoup plus violent en termes de fumée, c'est beaucoup plus violent en termes de monoxyde de carbone. Et quand on compare la chicha et la cigarette, les études montrent que globalement, quand vous fumez une chicha, c'est à peu près une heure, que quand vous fumez une chicha pendant une heure, c'est l'équivalent de 40 cigarettes, de deux paquets. En termes de fumée et de carbone. Donc vous voyez que c'est quand même assez
violent. C'est vrai qu'on vous dit pas comme ça en fait.
Voilà, ça ouais. On vous le dit pas. Ouais. Et même ceux qui ne fument pas de chicha et qui vont dans des bars à chicha par exemple et qui restent avec tous ceux qui fument, parce que techniquement un bar à chicha devrait avoir un petit espace fumeur. Maintenant le problème des bars à chicha c'est que tout l'espace est fumeur. Donc si vous êtes dans un bar à chicha, tout le monde fume de la chicha, vous avez de la fumée qui vous vient de partout. Donc même si vous ne fumez pas de la chicha et que vous êtes juste avec vos amis et vous passez un bon moment, rester une heure dans un bar à chicha, c'est l'équivalent pour vos poumons de fumer 6 cigarettes. C'est comme si vous aviez fumé 6 cigarettes. Donc en termes d'addiction, c'est moins violent, c'est moins brutal, ça prend plus de temps. Mais en termes de conséquences au niveau de la santé, c'est aussi grave, voire plus grave. C'est juste parce que c'est encore récent. C'est-à-dire que la chicha, c'est vieux. Mais ceux qui fumaient la chicha d'antan ne vont pas forcément aller demander...
C'était pas dans des lieux forcément collectifs.
Ils pouvaient le faire à la maison. Si, ça pouvait. Vous avez toujours, surtout en Orient et dans le Maghreb, vous avez des cafés à chicha, ouais, etc. Ouais. Et vous aviez un peu les anciens qui pouvaient fumer leur chicha dans leur propre maison tranquillement. Mais ils ne vont pas forcément les consulter pour ça, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une problématique. Pour eux, tout va bien. Ça les détend, ça leur fait du bien. En plus, vous avez...
Mais est-ce qu'il y a une problématique, finalement?
Pour moi, oui. Il y a une vraie problématique. Déjà, il y a une tromperie.
Est-ce qu'il y a une souffrance? Par exemple.
D'accord.
Moi, ma question, c'était alors que quelqu'un qui fume
alors,
une
pour
chicha,
la plupart des gens, non.
Ouais.
Pour la plupart
est-ce qu'il exprime une souffrance?
Pour la plupart des gens, non. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études dessus, parce qu'on n'a pas de gens qui viennent nous voir en nous disant, voilà, je suis dépendant ou addict à la chicha, aidez-moi. On n'en voit pas. Donc pour la plupart des gens, il n'y a pas de problème parce que c'est agréable, parce que ça sent bon.
C'est là, en fait, c'est un bon moment, c'est convivial.
Et c'est là où quand vous avez goût pomme, goût pastèque, goût je sais pas quoi, vous voyez que déjà là, il y a une, c'est pas de la pastèque, c'est pas de la pomme, on est d'accord, c'est du charbon.
C'est goût.
Voilà. Donc vous fumez du charbon, vous fumez pas de la pomme. Vous voyez, mais il y a des trucs comme ça où on change le nom des choses pour mieux accepter et pour que ça soit plus agréable. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire que vous avez des cancers du poumon, vous avez des problèmes cardiovasculaires à cause de la chicha, vous avez des choses graves qui se passent dans le corps. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte, ne font pas forcément le lien avec ces pathologies quand elles surgissent. C'est-à-dire que quelqu'un demain qui a un cancer du poumon, il est rare qu'il se dise, bah, c'est à cause de toutes les chichas que j'ai fumées toute ma vie. C'est-à-dire, c'est juste, voilà, ça devait arriver ou ça vient d'autre chose. Donc, il y a peu de gens qui sont en souffrance, effectivement, mais vous en avez quelques-uns qui commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas s'en passer. S'ils ne fument pas leur chicha tous les jours, ils ne sont pas bien. Mais même ces gens-là, si, vous ne pouvez pas encore leur parler d'addiction, parce qu'ils vous diront « Non, si je veux arrêter, j'arrête. » Ok, bah fais le test. Arrête. Et on verra ce qui se passe. Si tu arrêtes et que tout se passe bien, c'est que ça ne veut pas dire que c'est toujours bon, hein, c'est mauvais quoi qu'il arrive pour la santé, mais il n'y a pas forcément d'addiction, effectivement. Mais si la personne...
C'est ça le test, voilà. Finalement, c'est si on arrive...
Mais si la personne arrête quelques jours et avoue que son comportement change, qu'elle devient plus irritable, qu'elle n'est pas bien, qu'elle a du mal à gérer, qu'elle sent le manque, et qu'elle commence à ressentir le besoin vraiment de consommer cette chicha, alors qu'elle n'en a pas forcément envie, qu'elle avait même décidé de ne pas la consommer, alors là, devrait se poser des questions sur sa dépendance, effectivement.
Donc là, ça veut dire que finalement, quand on est addict, l'envie est plus forte...
Toujours.
Plus forte que la volonté.
Oui, toujours. Toujours, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, même avec les personnes qui sont proches, qui sont addictes à quelque chose. Parfois, les gens qui sont proches de ces personnes-là et qui souffrent d'addiction ne comprennent pas que c'est une question de... C'est pas une question de volonté. La volonté est importante.
On parlera
mais ça ne suffit pas.
De la volonté tout à l'heure. Ali Habibit avec nous, on parle des addictions ce matin. Si vous voulez interagir, intervenir, vous avez le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM à votre disposition. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle d'addiction. Addiction pour la rentrée avec Ali Habibi, thérapeute du couple et de la famille, qui lance sa première formation en ligne qui prend en charge les addictions. Hein. À quelle s'adresse cette formation ?
Les personnes qui ont des addictions comportementales. C'est-à-dire que la formation, elle est prévue, faite pour tous ceux qui ont des addictions comportementales, donc écran, pornographie, jeux vidéo, dépendance affective. Donc toutes ces choses-là sont prises en charge dans la formation. Les seules addictions comportementales qui ne sont pas prises en charge dans la formation sont les troubles alimentaires. Donc les troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, je ne le traite pas dans la formation. Et ceux qui ont des addictions aux produits, je ne parle pas des produits dans la formation, mais le protocole qui sera mis en place justement pour se libérer de certaines addictions comportementales peut aider aussi les personnes qui ont des addictions à certains produits.
Est-ce qu'on peut se libérer des addictions seules, en fait ?
On peut, mais très difficilement. Donc, je dirais presque non. Mais je peux pas dire non, parce que ça peut, certaines personnes peuvent peut-être y arriver, même si en réalité elles le font pas seules. Il y a toujours quelque chose qui fait que elles vont chercher un peu de l'aide, mais même de manière indirecte. Mais c'est très, très difficile. Donc, ne surtout pas s'isoler, en fait. Ne surtout pas s'isoler et penser qu'on va gérer, c'est beaucoup trop compliqué. La chose peut prendre vraiment le dessus sur nous, c'est très difficile. Et c'est pas une faiblesse, en fait, de se rendre compte de ça et de l'accepter. C'est juste de prendre conscience qu'on est vulnérable et que c'est pas si simple. Donc, se faire aider, c'est la première des choses à faire. Se faire aider, se faire accompagner. Ouais. Parce que c'est difficile, parce que ça peut être moyennement, voire parfois même très long. Et si on n'est pas accompagné, ben en fait, à la moindre rechute ou au moindre truc où ça va pas, on retombe et on perd espoir et on n'a plus envie.
Quand on souffre d'une addiction, est-ce qu'on le sait ? Ou pas ?
Pas forcément. Pas forcément. Certaines personnes peuvent être dans le déni, ne même pas se rendre compte qu'elles ont un souci à ce niveau-là. D'autres le savent, mais ne le diront pas, ou ne l'accepteront pas. Donc c'est pour ça que le premier pas à faire, c'est de se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a un souci, et accepter d'avoir un problème et un souci. Pour derrière pouvoir accepter d'être aidé et de faire ce qu'il faut pour pouvoir s'en libérer. Mais vous voyez, cette première étape, elle n'est pas si simple que ça. Pour beaucoup de gens, c'est très très difficile d'accepter l'idée qu'elles ont un problème d'addiction ou de dépendance et qu'elles ne contrôlent plus tout. Vous voyez, cette idée qu'on ne contrôle pas, ce n'est pas une idée agréable en fait. Mmh. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand vous les voyez qui peuvent avoir un comportement problématique ou lié à une addiction, quand vous essayez de leur faire prendre conscience, ils vous disent « Mais non, de quoi tu parles ? J'ai pas de problème, je gère, j'arrête quand je veux, je consomme quand je veux. » Pas certain. Mm-hmm. Faire l'expérience. Si t'arrêtes quand tu veux, bah arrête.
Fais l'expérience. On en revient là.
Ouais. Arrête quelques jours et vois ce qui se passe.
Donc, ça, elle dure combien de temps, votre formation ?
Alors, elle a commencé il y a 2 semaines déjà. On l'a fait progressivement. Donc, progressivement, je publie des vidéos. Et ça sera jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un peu plus de 4 mois. Donc, sur un peu plus de 4 mois, vous avez l'explication de qu'est-ce qu'une addiction, comment ça fonctionne donc, au niveau du cerveau, tout le protocole à mettre en place pour pouvoir s'en libérer, essayer de comprendre les déclencheurs, parce qu'il y a plein de déclencheurs qui nous poussent à retomber ou à tomber ou à nous pousser dans certains comportements. Comment se faire aider, tout ce qu'il y a à faire justement pour pouvoir s'en libérer. Et avec la formation et les vidéos, j'ai mis en place aussi un groupe de soutien via une application qui s'appelle Discord. Et dans ce groupe de soutien qui est non mixte, vous avez donc un salon pour les hommes et un salon pour les femmes. Les gens s'entraident aussi entre eux énormément. Il y a vraiment un soutien très fort parce
c'est-à-dire
que
sur le principe des groupes de parole, Ali.
Par exemple. Ouais. Oui, je me suis basé sur les tous les groupes de parole qui peuvent aider justement à se libérer de certaines addictions. Mais sans forcément qu'il y ait un modérateur qui insiste et qui je les laisse plutôt faire entre eux, de s'entraider entre eux. Quand quelqu'un est pas bien, il le dit. Et puis vous avez des dizaines de personnes qui viennent un peu vous soutenir. Ça évite de s'isoler, de rester seul, qui est la pire des choses quand on est addict à quelque chose.
D'accord. C'est sous quelle forme ? Ce sont des vidéos, des...
Le groupe de soutien ?
Ouais.
C'est par écrit. Donc le groupe c'est comme un forum.
D'accord.
C'est sur l'application. Ils peuvent écrire, ils peuvent s'écrire et ils s'échangent. Ils parlent justement de ce qui les affecte, de comment ils ont passé leur journée. Ils peuvent se lancer des défis, s'entraider, s'encourager mutuellement, se réconforter, se motiver les uns les autres. Et ça leur permet justement de ne pas rester seuls. Et franchement, je savais que ça allait faire quelque chose et que ça allait être utile de le faire. Mais sincèrement, là, ça fait deux trois semaines. Je suis plus que surpris. C'est-à-dire que ça va au-delà de mon espérance en termes de conséquences pour le moment. Je suis vraiment satisfait de ce groupe-là. Et donc voilà, ils reçoivent après sur le à côté, ils reçoivent les vidéos progressivement du programme.
Bon, on s'inscrit comment, Ali ?
Alors, sur boutique.abibi.fr. Donc boutique.abibi, donc Abibi H-A-B-I-2-B-I. Donc H-A-B-I, 2-B-I.
Donc les 2-B, c'est
au deuxième.
C'est en deuxième.
2-B ouais. Deuxième B. Et en fait, dans l'espace, dans cet espace-là, vous avez toutes mes formations. Et celle-ci va être dans les premières. Elle s'appelle Briser les chaînes pour se libérer des addictions comportementales.
Quel est le rôle de l'entourage dans les addictions ? Parce que l'entourage est souvent aux premières loges, d'ailleurs, et subit les conséquences.
Exactement. Alors, c'est pas simple pour l'entourage d'être avec quelqu'un qui est addict aussi. Alors, c'est pas simple pour la personne elle-même d'être addict à quelque chose, parce que justement, il y a cette perte de contrôle et toute cette dévalorisation qui va venir derrière, la perte de la confiance, de l'estime, etc. Et l'entourage va subir justement ces comportements. Tout à l'heure, je vous disais que c'est important de comprendre que la volonté ne suffit pas, parce que parfois, l'entourage ne le saisit pas, ça, et pense que c'est juste une histoire de volonté, et que quelqu'un qui n'arrête pas un comportement ou un produit, c'est qu'il ne le veut pas vraiment. Alors que non, la personne peut le vouloir vraiment, à 1000%, mais ne pas y arriver, en fait, tout simplement. Donc l'entourage a pour moi, une importance importante. Quand à partir du moment où l'entourage est OK pour accompagner et aider, ça peut être un vrai boost pour la personne. Ça peut vraiment être un vrai plus. Une petite anecdote, j'ai déjà vu, alors que même en consultation, alors dans le programme qu'on met en place, il arrive un moment très, très, très rapidement au début où je demande aux personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, parce que quand on est addict depuis 10 ans, on a une image de soi qui est quand même assez mauvaise, de certains patients qui sont addicts à la pornographie, donc encore plus dévalorisé, c'est quelque chose qui est caché, donc on va pas en parler, c'est tabou, donc comment demander de l'aide alors qu'on a honte d'en parler. Et très rapidement, dans l'exercice que je leur demande de faire, c'est d'aller chercher une photo d'eux d'avant les addictions. Donc une image d'eux, une photo ou une vidéo, s'ils peuvent trouver une vidéo d'eux-mêmes, avant qu'ils soient addicts, même si c'était quand ils étaient très jeunes. Et en fait, souvent, ça a quand même ça fait un choc, parce qu'on se voit soit tel qu'on est réellement. Parce que ce qui se passe au bout d'un moment quand on est addict depuis longtemps, c'est qu'on associe l'addiction à soi et qu'on s'identifie par rapport à l'addiction. On pense que l'addiction, c'est nous. D'où la mauvaise image de soi. Et le fait de se voir avant l'addiction permet de se recentrer sur notre réelle personnalité, notre réelle personne. Nous ne sommes pas l'addiction que nous avons. Et donc, ce qui se passe de temps en temps, c'est que les gens, ça leur fait un choc. Ça leur fait beaucoup de bien de justement de se revoir comme ils étaient. Ça les motive justement à essayer de se battre pour pouvoir s'en libérer. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent en parler à un proche. C'est en fait le choc les fait un peu craquer. Ils peuvent avoir une réaction très émotive, c'est-à-dire de des pleurs ou vraiment une réaction de. Alors, il y a du regret par rapport à l'addiction, mais il y a aussi cet espoir de voilà qui j'étais. Ça me rassure aussi d'avoir été cette personne. Et à ce moment-là, les personnes souvent peuvent parler à leurs proches, à leurs parents, à leur époux, à leur épouse, etc., pour leur dire voilà, j'ai tel problème sur telle chose, et j'ai peut-être aussi besoin de ton aide pour pouvoir en sortir. C'est très difficile à faire, mais quand la personne est réceptive et qu'elle est ok pour accompagner, c'est un boost incroyable.
Vous parlez de l'addiction à la pornographie, mais il y a toute une série d'addictions qu'on connaît pas finalement. Les addictions aux jeux d'argent sont dans le DSM.
Oui.
Aujourd'hui, mémoire. Mais il y a toutes ces addictions qui tournent autour des jeux.
Alors, vous avez déjà les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, vous avez. Il y a des jeux vidéo qui peuvent être addictifs. Mais en fait, vous avez un autre problème au niveau des addictions. Ce n'est pas forcément le jeu vidéo lui-même. Ça va être un mode dans le jeu vidéo. Je prends l'exemple de FIFA. FIFA qui est un jeu de foot, donc vous allez jouer, prendre une équipe de foot et jouer contre d'autres gens, etc. Jusque là tout va bien, c'est récréatif, vous pouvez le faire de temps en temps ou même régulièrement, c'est pas forcément problématique. Ce qui va poser problème dans FIFA, ça va être le mode fut. Le mode fut, les gens construisent une équipe par rapport à des images de réels joueurs. Mais pour avoir ces images, c'est un peu la loterie. Mais pour pouvoir faire ces loteries là, il faut payer, mais avec du vrai argent.
Ah oui, vous avez acheté d'accord, le jeu, oui, c'est pas un jeu, c'est voilà. Ouais.
Vous avez acheté le jeu. Mais vous devez encore payer pour avoir des crédits virtuels pour pouvoir faire ce
recrutement,
ce truc de loterie en fait où vous savez pas sur quelle carte vous allez tomber. Et vous voyez ce désir d'avoir certains joueurs et les cartes qui tournent et vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Cette sensation, cette excitation qui va se produire peut être addictive. Et donc les gens vont consommer, dépenser beaucoup d'argent. Certains mettent leur salaire dedans juste pour avoir des cartes virtuelles qui n'ont pas de valeur concrète. Mais ils peuvent dépenser des milliers d'euros, des centaines et des milliers d'euros, et parfois même des très jeunes peuvent faire ça. Et alors que un an après, vous avez une nouvelle version du jeu qui sort et rebelote, faut tout recommencer parce que votre équipe elle est obsolète, n'a plus de valeur. Vous avez aussi les gachas qui posent problème. Les gachas, ça va être un peu les jeux du type les jeux mobiles, donc qui se basent souvent sur des mangas ou des séries. Donc vous avez Naruto, One Piece, etc. Les jeux sont gratuits. Donc pour attirer le plus
alors
de monde
gratuit,
possible.
Ça n'existe pas en vrai. Il faut savoir que quand il y a un proverbe en marketing qui dit si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit.
Exactement. Vous prenez Fortnite, c'est la même chose. Fortnite, pourquoi ça? Alors ça a mis du temps à exploser. Mais Fortnite, l'explosion, c'est quand même un jeu qui est gratuit. Donc tout le monde peut y jouer. Et tout le monde est tout le monde est égaux. C'est-à-dire que vous partez sur le principe que vous pouvez n'importe qui peut gagner. Mais pour pouvoir être le premier, le désir d'être le premier, d'être le seul survivant. Vous stimule et vous fait recommencer plein de parties les unes après les autres. Mais à force d'être dans le jeu, vous avez ce qu'ils appellent des skills, donc des tenues différentes, des trucs un peu fun, etc., qu'il faut payer avec du vrai argent. Et pareil, là, vous avez des gens qui dépensent beaucoup d'argent alors que le jeu est gratuit à la base, mais qui gagnent des millions et des millions à chaque fois. Donc je reviens sur ces jeux mobiles, le jeu est gratuit. Pareil, c'est des systèmes de cartes ou de personnages, etc., avec qui vous allez combattre et faire de vos aventures. Mais pour avoir les nouvelles cartes ou les personnages les plus puissants, pareil, c'est de la loterie. Donc il y a ce truc de hasard. Je ne sais pas si je vais l'avoir ou pas. Et où il faut dépenser du vrai argent. Alors, eux, ils vous donnent un peu d'argent virtuel pour vous pousser à tester cette loterie-là. Mais une fois que vous la testez, vous devenez plus ou moins un peu accro. Et quand vous avez plus ces crédits virtuels que eux vous donnent, parce que c'est quand même limité, vous allez dépenser de l'argent pour en avoir davantage. Et là, on peut tomber dans certaines formes d'addiction. De la même manière que les gens qui jouaient à l'époque au PMU, au tiercé, et souvent quand on était jeune, on se moquait d'eux en disant mais
ça existe toujours.
Oui, ça existe toujours. Mais vous voyez, je me rappelle quand j'étais jeune avec certains amis, on voyait des papas maghrébins africains qui allaient au PMU, qui on se dit mais est-ce qu'il comprend déjà les règles en fait du tiercé, qu'est-ce qu'il y connaît aux chevaux, etc. Et on se moquait de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il fait ça mais en fait, aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là font la même chose en jouant à FIFA, en jouant à One Piece sur leur jeu mobile ou à Fortnite.
Le même mécanisme. Et le même.
Exactement.
De l'addiction. Encore une fois, on parlait de l'entourage tout à l'heure. Mais là, si vous avez un proche qui souffre, enfin, en tout cas, vous l'avez constaté, qui souffre d'une addiction, quels sont les mots que vous pouvez lui dire? Parce que là aussi, si on est face à un déni, il faut trouver les mots qui vont pousser la personne à se prendre en charge.
Je vous dirais déjà ce qu'il ne faut pas lui dire.
Voyez. C'est pas mal déjà. Voilà. Vous en sentez bien pour quelqu'un en retard.
vous l'avez placé quand même le retard. Bien joué.
3 minutes de la fin encore.
Non, vous avez bien vu. Donc comment faire pour aider les personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre d'addiction? Alors déjà, il faut pas lui dire c'est une question de volonté. En fait, tu veux pas, ou t'as pas suffisamment de volonté, ou t'es incapable, ou t'es faible, ou t'es nul, etc. Tout ce qui peut être de l'ordre du négatif ou dévalorisant, il faut vraiment l'éviter absolument, parce que ça va juste renforcer la personne dans l'addiction.
Ceci dit, la question de la volonté, en addictologie, vraiment, elle est centrale, et on la refuse, alors que ceux qui s'en sont sortis vous disent souvent qu'ils s'en sont sortis parce qu'ils l'ont voulu.
Oui, mais on la refuse pas. Dans un traitement ou dans un accompagnement, la volonté est primordiale. Elle est nécessaire. Mais elle ne suffit pas à elle-même. C'est juste ça la différence. C'est que la volonté, la preuve, c'est que la plupart des gens ont envie d'arrêter leur consommation, ils ne l'arrêtent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc, de ne pas utiliser de mots dévalorisants ou rabaissants, etc. De dire à la personne, écoute, ce n'est pas totalement de ta faute. Tu as une part de responsabilité, mais on ne va pas forcément s'arrêter là-dessus. Mais ce n'est pas totalement ta faute. La chose prend le dessus sur toi. L'humain est vulnérable. Tu as besoin d'aide. Je suis là aussi pour t'aider. Ensemble, on peut y arriver. Ce n'est pas forcément évident. Tu as du courage à vouloir essayer d'arrêter parce que c'est pas forcément simple. Donc, vous voyez, c'est là, on valorise la personne. On l'encourage justement à aller dans ce sens-là. Et on lui propose son aide pour pouvoir lui dire si tu as besoin, je suis là. Et si tu as besoin de parler, on peut en discuter sans juger, sans condamner et en accompagnant progressivement.
Bien, alors la formation, pour ceux qui nous écoutent ce matin, c'est anonyme, parce que la question d'anonymat est assez importante aussi pour moi, c'est très important aussi. Pour toutes ces questions d'addiction.
C'est totalement anonyme. Alors quand vous rejoignez la formation, il n'y a que moi qui sais qui vous êtes, personne d'autre, les gens ne savent pas qui est qui, et même dans le groupe, pourquoi j'ai choisi Discord comme support, c'est justement parce qu'il n'y a aucun nom, aucun numéro de téléphone, aucun mail qui apparaît.
C'est entre bizarre comme nom quand même, Discord.
C'est une application surtout pour les gamers à la base, les gamers l'utilisent pour être en contact, c'est une communauté de gamers, les communautés de gamers utilisent Discord, mais ça permet justement de ne pas voir le mail ou le numéro de l'autre personne, contrairement à WhatsApp ou à d'autres applications où on peut voir qui est qui.
Voilà, on rappelle donc que ceux qui nous écoutent peuvent s'inscrire à la formation.
Briser les chaînes, oui. Voilà. Donc sur boutique.abibi.fr, H-A-B-I-2-B-I.fr. Briser les chaînes, qui est la formation donc, pour se libérer de ses addictions comportementales.
Bon, c'est la rentrée. Ali, Abibi, merci d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à toi, Philippe.
Je vous retrouve tout à l'heure à 11h pour le retour des petites annonces. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.